Laurent Maillé.
Il est 18h en temps universel, 18h à Daoukro, 18h à l'écoute de Radio de la Paix. Vous suivez le journal du soir. À présent, le sommaire. La Fondation Moïbrahim a ouvert aujourd'hui son week-end de gouvernance. Les panélistes vont réfléchir pendant 3 jours sur la question de l'emploi des jeunes et la migration en Afrique. L'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, la RDCI, est en séminaire de 2 jours sur le renforcement de l'action des collectivités territoriales pour accélérer la réalisation du programme d'émergence et l'atteinte des ODD, objectifs de développement durable en Côte d'Ivoire. Actualité internationale, l'homme fort et de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar a ordonné à ses forces d'avancer vers la capitale, Tripoli, siège du gouvernement d'Union nationale, le GNA. Radio de la Paix, bonsoir et bienvenue à tous. Migration et emploi des jeunes en Afrique. La directrice de la Fondation, Mo Ibrahim, était face à la presse aujourd'hui à Abidjan à l'ouverture de la 12e édition du week-end annuel de gouvernance de la dite Fondation. Durant 3 jours, les différents panélistes vont échanger autour du thème « La jeunesse africaine, migration, faute d'emploi ». Jean-Claude Mabéa était à l'ouverture de cette cérémonie. Voici son compte-rendu.
Les raisons du choix d'Abidjan pour abriter cette édition avec la directrice de la Fondation Mo Ibrahim, Nathalie de la Palme.
La Côte d'Ivoire a accompli un parcours tout à fait remarquable dans l'indice Ibrahim de gouvernance au cours des 10 dernières années. En termes de performance sur la décennie écoulée, 2006-2017, le plus beau parcours des 54 pays du continent. Alors, il est encore au 22e rang des 54 pays, donc il y a toujours des marges d'amélioration, mais le parcours est tout à fait exceptionnel. Et pour nous, c'était important de saluer ce parcours.
Sur la principale thématique de ce forum, qui porte sur la migration et l'emploi, la directrice de la Fondation Mo Ibrahim s'est voulue en un peu plus claire. Nathalie de la Palme.
Le choix du thème de cette année, qui est celui des migrations africaines, nous paraissait parfaitement adapté à un pays qui est à la fois un pays de transit, mais aussi un pays d'accueil des populations migrantes. C'est pour la Fondation un sujet majeur que nous avons déjà traité à plusieurs reprises dans des précédentes réunions, dans des précédents forums, et pour lesquels, en amont de la discussion, nous produisons toujours un rapport d'information qui s'appelle Facts and Figures, que nous mettons à la disposition de ceux que ça peut intéresser, de manière à éviter que les débats se résument à un diagnostic et à des recommandations, mais plutôt se concentrent sur les réponses à apporter et qui peut être responsable de ces réponses.
À noter que le président de la Fondation Mo Ibrahim tiendra un dialogue direct avec le président ivoirien Alassane Ouattara samedi au forum de haut niveau sur la migration pour marquer la fin de cet événement.
Renforcer l'action des collectivités territoriales pour accélérer la réalisation du programme d'émergence et l'atteinte des ODD, objectif de développement durable en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif du séminaire inaugural de la nouvelle mandature des élus régionaux tenu les 3 et 4 avril à Grand Bassam. Séminaire organisé par l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, la RDCI, en présence de la tutelle, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur et des partenaires au développement. Junior Cardin nous en dit davantage.
À l'ouverture de cette séance de travail, le président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI, le ministre Aka Olé, a évoqué quelques faiblesses de la fêtière.
Malgré cette reconnaissance du rôle majeur des collectivités territoriales, il convient de reconnaître que le processus de décentralisation en Côte d'Ivoire n'est pas accompagné de moyens financiers et matériels conséquents. En outre, elle ne dispose pas toujours, hélas, des compétences humaines pour la résolution des grands défis mondiaux au niveau territorial.
D'où les attentes légitimes de la tutelle au terme des 2 jours de travaux pour améliorer les prestations. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité.
Nous voudrons émettre le vœu que les résolutions et conclusions qui sortiront de ce séminaire vont contribuer de façon significative à l'amélioration du fonctionnement de nos régions, à la montée en puissance des capacités opérationnelles de ces régions et à davantage de promotion de la décentralisation en Côte d'Ivoire.
Cette occasion fut belle pour le directeur de l'Agence française de développement AFD, Emmanuel Debroise, pour évoquer un pan du partenariat entre son institution et les conseils régionaux.
Cette année va démarrer sur le terrain le projet de développement économique et écologique des territoires ruraux, connu sous le nom d'Écoterre, dans 8 régions de la Côte d'Ivoire. D'un budget total de 23 milliards de francs CFA, financé sur fonds C2D, elle va soutenir le développement agricole, la gestion durable des ressources naturelles et la gouvernance foncière dans chacune de ces régions.
Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a exhorté les élus régionaux à initier de façon significative un programme social et régional au profit des populations.
Comme promis, le 1er avril 2009, devant les députés, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a procédé hier, mercredi 3 avril, à la nomination de 33 sénateurs et qui étaient attendus pour compléter la liste des membres du Sénat de Côte d'Ivoire. Et depuis la publication de cette liste et des 33 sénateurs, chacun y va de sa lecture et de son commentaire. Pour Geoffroy-Julien Kouao, juriste et analyste politique, cette liste a une forte coloration politique. Suivons ensemble ces analyses.
Première remarque, c'est que nous constatons qu'il y a 11 femmes parmi ces sénateurs nommés par le président de la République. C'est une volonté politique affichée quant à la promotion de la jeune féminine en Côte d'Ivoire. Deuxième remarque, c'est que ces nominations ont une forte coloration politique et on a des visages déjà connus, mais il faut aussi noter la présence des membres de la société civile et des personnalités fortes comme Madame Dao Gabala. Et puis, fait remarquable, c'est la présence parmi ces sénateurs d'une dame d'origine européenne. Il s'agit de Madame Delon. C'est une Ivoirienne d'origine française. Ce qui montre l'esprit d'ouverture de la Côte d'Ivoire qui s'inscrit dans la gouvernance moderne.
Alors, vous dites que cette composition a une forte coloration politique. Qu'est-ce à dire?
Regardez bien à l'observation, on remarque que ce sont des cadres importants du RHDP, mais aussi du PDCI proche de la tendance PDCI Renaissance. Il est évident que le Sénat est avant tout une chambre politique, même si la Constitution lui donne une fonction de proximité. En conclusion, on peut dire que le Parlement a ses deux chambres, il peut fonctionner normalement, et je pense que le prochain chantier, c'est la mise en place de la Haute Cour de justice chargée de juger le président de la République et les membres du gouvernement en cas de besoin.
Geoffroy-Julien Kouao, juriste et analyste politique. Il était interrogé par Soro Adams et il faut ajouter que les nominations intervenues hier viennent compléter à 99 le nombre des sénateurs de Côte d'Ivoire. Les 66 autres sénateurs ont été élus à l'opposé, les 33 qui eux sont nommés et par le président de la République. Il faut toujours noter que également l'installation officielle du Sénat est prévue le 11 avril 2019 prochain à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet de Daoukro a remis plus de 1000 extraits de naissance aux écoliers de la localité. Cette distribution gratuite d'extraits de naissance s'inscrit dans le cadre d'une opération gouvernementale visant à faire face au manque de documents administratifs. Et pour en savoir un peu plus sur cette opération, écoutons Koulibaly Zana, le sous-préfet de Daoukro.
L'État ayant constaté que beaucoup de nos élèves dans les écoles n'avaient pas d'extrait de naissance, du CP1 jusqu'au CM2, a décidé de financer une opération d'enrôlement des élèves. Ça a commencé en 2017 et cette année, nous avons pu signer 1116 extraits en ce qui concerne la sous-préfecture de Daoukro. Et nous avons fait appel à l'inspecteur, au directeur d'école, au chef de village, aux élus pour procéder à la distribution de ces extraits de naissance. Donc nous demandons aux parents qui constaterait des erreurs matérielles éventuelles de venir rapidement dans nos services pour les corrections. Et nous espérons que ce soit la dernière opération. C'est-à-dire à partir de maintenant, nous ne souhaiterons plus voir un élève qui n'ait pas d'extrait de naissance. Et pour ce faire, nous encourageons les parents à déclarer les enfants qui naissent. Nous avons jusqu'à 3 mois pour faire la déclaration de naissance et c'est gratuit. Donc vraiment, nous demandons aux parents toutes les fois qu'un enfant naît, de se rendre à la sous-préfecture ou à la mairie pour faire la déclaration de cet enfant. Parce que l'extrait de naissance, c'est la base de l'existence d'un enfant sur la terre. Ne pas le faire, c'est très dangereux pour l'enfant. Et c'est très dangereux même pour le pays.
Koulibaly Zanaa, le sous-préfet de Daoukro. Et puis, restons toujours à Daoukro pour parler de mise en œuvre effective de la couverture maladie universelle. Une délégation de la Caisse nationale d'assurance maladie a échangé hier à Daoukro avec les leaders d'opinion des localités de la sous-préfecture en vue d'identifier les ménages économiquement faibles. Écoutez plutôt les explications de Yves Kwame de la Caisse nationale d'assurance maladie.
Dans le cas de la couverture maladie, on a deux régimes. Le régime contributif où on paye 1000 francs par mois et par personne, et le régime non contributif qui est le régime d'assistance médicale où ces personnes qui constituent ce régime-là sont prises en charge à 100% par l'État. Mais ceux-là, c'est seulement que les Ivoiriens. Donc pour les avoir, il faut mener une enquête pour les rechercher. Donc c'est dans le cadre de cette enquête-là que nous sommes là pour mobiliser les 7 structures de Daoukro afin de recevoir des agents enquêteurs qui viendront dans le cadre de l'identification des ménages économiquement faibles. Donc il va falloir d'abord sensibiliser les leaders communautaires qu'on a invités, c'est-à-dire le chef du village, la présidente des femmes et le président des jeunes. Donc on a passé l'information comme quoi il y aura des agents enquêteurs qui vont venir dans la localité précisément la semaine prochaine. Ils vont faire peut-être 2 ou 3 semaines dans le département. Ils iront de village en village et de ménage en ménage pour administrer un questionnaire afin de rechercher des personnes qui ont des difficultés à payer leur cotisation mensuelle de 1000 francs. On aimerait bien que ces leaders communautaires qui sont venus arriver au village, qu'ils puissent relayer l'information qu'on leur a donnée, qu'ils accueillent ces personnes-là, qu'ils mettent à leur disposition les documents administratifs, carte d'identité, extrait de naissance, afin de pouvoir collecter de bonnes informations, surtout au niveau des noms.
Yves Kwame, et il est de la Caisse nationale d'assurance maladie. À San Pedro, une opération de dégrappissement des populations du quartier Plaque R Ivoire a eu lieu hier soir, installée illégalement sur le domaine de l'aéroport. Et ces populations, après plusieurs négociations, ont été forcées de quitter les lieux et sans toutefois avoir l'assurance d'être relocalisées. Correspondance, Kofi Benson.
Majoritairement composé de baraques, le quartier Plaque R Ivoire est depuis longtemps un sujet épineux. Désormais, après le passage du bulldozer, il n'en reste que des résidus de logis de fortune. Mais comment en est-on arrivé là? La réponse avec Guanou Blaise, directeur technique adjoint à la mairie de San Pedro.
Il faut dire que le dégrappissement qui se fait actuellement, c'est pour libérer l'espace qui appartient à l'aéroport de San Pedro. Lors d'un vol de calibrage, ils ont constaté que les installations précaires qui sont là impactent négativement les données que ces appareils envoient aux avions. Du coup, il y avait des risques de crash. Donc, depuis 2004, la Sous d'Exemple a écrit à la mairie à l'effet de procéder au dégrappissement des populations qui sont installées sur leur domaine. Nous avons entamé des démarches. En ce moment, ils n'étaient pas nombreux, leur demandant de partir. Ils ont demandé des délais plusieurs reprises. Et de 2004 jusqu'à aujourd'hui, 2019, nous étions encore dans le même dossier. Donc, maintenant, nous avons compris que cette population réellement ne voulait pas partir.
Une opération qui a pour conséquence la détresse des populations qui ne savent à quel sein se vouer. Pour Maé Gilbert, membre de la chefferie du quartier Plaque R Ivoire, l'idéal serait que les sinistrés soient relocalisés.
On a ici 284 familles. Aujourd'hui, tout le monde est dehors. Où partir? On n'est pas contre le développement, mais tout ce que nous demandons aujourd'hui, c'est de nous trouver un coin où nous allons partir. Le développement, on est pour, mais c'est les manières de faire aujourd'hui qui fait qu'on sort avec les larmes aux yeux.
Ces populations ont donc les regards tournés vers les autorités et les personnes de bonne volonté pour une solution à leurs préoccupations. Kofi Benson, San Pedro. Radio de la Paix.
Bientôt un master professionnel sur le transport et l'aménagement à l'Institut National Polytechnique Félix Houphouët Boigny de Yamoussoukro. Le projet est le fait de l'accord de partenariat signé le 18 janvier dernier à Washington entre l'INPHB et l'École des Ponts de Paris. À cet effet, Sophie Mougard, la directrice de cette école, vient d'effectuer une visite à l'INPHB. Nous l'écoutons au micro de Radi Razak Wilfried.
L'école des ponts et l'INPHB ont le souci de développer un partenariat d'excellence avec un master sur les thématiques des transports et de l'aménagement urbain qui va accompagner les très grands projets de renouvellement de l'urbanisme, l'accompagnement des questions de transport et de mobilité du Grand Abidjan. Il y a d'énormes besoins, les entreprises le manifestent tous les jours et on voit l'importance de pouvoir répondre à ces besoins avec des ingénieurs de haut niveau dans ces thématiques à travers ce master professionnel qui va les former. On peut difficilement parler de transport sans parler d'aménagement. La réciproque est aussi vraie. On a vu les enjeux à travers les grands projets que soutient la Banque mondiale. Ce master est une première parce qu'il a bénéficié de l'appui de la Banque mondiale, parce que nous sommes deux établissements qui souhaitons développer un partenariat qui va très opérationnellement démarrer début 2020 et préparer d'abord une enquête auprès des entreprises, cibler leurs besoins pour être en capacité d'y répondre le mieux possible. Et puis dans un deuxième temps, préparer la maquette pédagogique et puis ensuite il y aura toute la partie recrutement. Nous avons pu noter l'intérêt que les équipes de l'INPHB ont manifesté sur le projet et je pense que c'est un vrai gage de succès.
Sophie Mougard est la directrice de l'école des ponts de Paris. L'actualité internationale, la page africaine, l'homme fort de Libye, de l'est de la Libye, le maréchal Khalifa Haftar a ordonné à ses troupes d'avancer vers la capitale Tripoli, siège du gouvernement d'union nationale, le GNA, dans un message sonore publié aujourd'hui. L'heure a sonné, a-t-il ajouté dans cette déclaration diffusée sur la page Facebook du bureau et des médias de l'armée nationale libyenne, l'ANL, proto-proclamée par le maréchal Khalifa Haftar. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, actuellement présent en Libye, s'est dit aujourd'hui préoccupé par le risque de confrontation après des mouvements vers l'ouest de troupes loyales à l'homme fort de l'est libyen, Khalifa Haftar. Je suis vivement préoccupé et par le mouvement de troupes en Libye et le risque de confrontation, a écrit Antonio Guterres sur son compte Twitter au deuxième jour de sa visite dans ce pays en Libye, dirigé par deux autorités rivales. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, le rappel des principaux titres. La fondation Mo Ibrahim a ouvert aujourd'hui à Abidjan son week-end de gouvernance. Les panélistes vont réfléchir pendant 3 jours sur la question de l'emploi des jeunes et de la migration en Afrique. Et puis l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, la RDCI, est en séminaire de 2 jours sur le renforcement de l'action des collectivités territoriales pour accélérer la réalisation du programme d'émergence et l'atteinte des ODD, les objectifs du développement durable en Côte d'Ivoire. Actualité africaine, l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, a ordonné à ses troupes d'avancer vers la capitale Tripoli, siège du gouvernement d'union nationale, le GNA.